Radio Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, 3 morts, 4 véhicules de la MONUSCO brûlés et la cargaison emportée. Bilan de l'attaque d'hier soir sur un convoi des casques bleus dans les territoires de Nyiragongo, Nord Kivu. Les signaux des chaînes de télévision rwandaises sur Canal Sat sont coupés pour une période de 3 mois. Ainsi en a décidé à Kinshasa le CESAC suite au dénigrement des institutions de la RDC par ces chaînes de télévision rwandaises et l'incitation des Congolais à l'insurrection. Notre invité, c'est l'inspecteur provincial des affaires sociales dans la Tchopo, Théophile Bartholomé, affirme que 6 des 7 enfants hébergés à l'orphelinat Faïda Watoto, disparus depuis le mois de novembre dernier, ont été retrouvés à Ariwara, sur le point d'aller en Ouganda. Madame, messieurs, bonsoir. 3 morts, 4 véhicules de la MONUSCO brûlés et la cargaison emportée. C'est le bilan de l'attaque d'hier soir sur un convoi des casques bleus de la MONUSCO dans les territoires de Nyiragongo. Dans un communiqué publié hier soir, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC adresse ses condoléances les plus attristées et exprime sa compassion aux familles des disparus. Bitu Keïta affirme qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ce drame. À Goma, Gabriel Omenya.
Dans ses communiqués, la MONUSCO affirme que l'attaque contre les convois de casques bleus est survenue hier dans la soirée dans le groupement de Munigi en territoire de Nyiragongo. Les casques bleus revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja et se rendaient à Goma. C'est à 2 kilomètres qu'ils ont été assaillis par les manifestants qui ont d'abord barricadé la route, obligeant ainsi les convois à s'immobiliser. C'est dans la foulée que les manifestants présumés ont mis le feu sur les 4 véhicules du convoi avant de s'emparer de toute la cargaison à bord. Pendant les échauffourées, 3 manifestants ont trouvé la mort alors que les casques bleus et les FRDC tentaient de protéger les convois. Une enquête conjointe avec les autorités du pays devra permettre de déterminer les circonstances de ces décès, poursuit les communiqués. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, réitère son appel à la population pour faciliter la libre circulation du personnel de la MONUSCO qui apporte son soutien opérationnel aux FRDC, assure la protection des civils et facilite l'acheminement de l'aide humanitaire aux victimes et personnes déplacées et renouvelle l'engagement sans faille des systèmes des Nations Unies à soutenir les gouvernements et les peuples congolais dans les efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans les pays, conclut les communiqués. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, 1 mort, 12 blessés graves, 2 églises et plusieurs boutiques saccagées, c'est le bilan définitif dressé par le commandant urbain de la police nationale à Goma après les manifestations organisées pendant 2 jours dans cette ville du Nord Kivu. Certains instigateurs de ces manifestations, des instigateurs présumés, devraient être présentés ce mercredi devant la justice. Le colonel Job Alissa parle des effets collatéraux de ces manifestations. Il est au micro de Gabriel Wamenya.
Effectivement, nous avons centralisé les données trouvées sur terrain. Comme je vous ai dit, il y a des églises qui ont été détruites et pillées. Il y a eu 12 blessés par un mur digne de ces deux églises qui est tombé sur les gens qui détruisaient. Mais aussi, toujours dans le même cadre, il y a eu un décédé, un mort, donc qui est déposé à la morgue. Et nous avons aussi interpellé 7 personnes en train de piller et dans des boutiques au niveau de Signers. Et ce petit matin, nous allons les transmettre à la justice. Comme je vous ai dit, que nous n'avons pas voulu faire des échanges avec la population pour éviter tout dérapage de la part de nos éléments, mais aussi de la part de la population, et éviter que l'ennemi profite de cette manifestation. Nous avons beaucoup concentré nos efforts sur la sécurité, la surveillance de la ville.
Notez que toutes les activités socio-économiques ont repris ce mercredi dans la ville de Goma, hormis quelques écoles qui ont renvoyé les élèves en sous-effectif. Autre nouvelle en plus bref, une délégation des Nations Unies a entamé ce mercredi une mission de 5 jours à RDC. C'est pour une évaluation stratégique des défis et des opportunités auxquelles est confrontée la RDC. La délégation est conduite par la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Madame Martha Pobé. mais l'évaluation portera sur des questions politiques, sécuritaires et de gouvernance. Les sous-secrétaires généraux des Nations Unies, Elisabeth Speha, chargée de l'appui à la paix, et Alexandre Zou, chargé de l'état de droit et des institutions de sécurité, sont du voyage. Et puis, les signaux des chaînes de télévision rwandaises sur le bouquet de Canal Sat sont coupés pour une période de 3 mois depuis hier. Canal Sat a réservé une réponse favorable au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui, dans un communiqué publié hier à Kinshasa, a décidé de couper le signal des chaînes rwandaises émettant en RDC. Le CESAC dénonce le dénigrement des institutions congolaises par des chaînes de télévision rwandaises et l'incitation des Congolais à l'insurrection. Michel Kifindangoy.
Dans une notification adressée hier mardi au groupe Canal Plus RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fustige que les chaînes rwandaises s'emploient à l'intox, à l'incitation à la désobéissance civile et à l'insurrection contre les autorités publiques de la RDC. Pour le CESAC, les chaînes rwandaises dénigrent les autorités nationales ainsi que leurs animateurs et font l'apologie de la guerre. Selon cette institution d'appui à la démocratie, ces médias rwandais s'appliquent à démotiver les forces armées de la RDC au bénéfice du M23, reconnu en tant que mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Par ailleurs, le CESAC constate l'interruption des programmes diffusés par la radio nationale congolaise, par la radio nationale congolaise au Rwanda, laissant allègrement les télévisions rwandaises arroser au même moment la population congolaise à l'occasion de la visite papale du discours de la haine. D'où cette décision de coupure du signal des chaînes rwandaises pendant 90 jours, souligne le CESAC qui invite les autorités politico-administratives et judiciaires de veiller à sa bonne exécution.
Et puis la société civile de Boabo, secteur d'Osso, Banyungu, dénonce le conflit foncier qui persiste entre les agriculteurs et les éleveurs de cette contrée du territoire de Massissi au Nord Kivu. En l'espace de mois, en effet, plus de 20 vaches ont été abattues et d'autres volées dans différents pâturages. La société civile qui tire la sonnette d'alarme demande par conséquent aux autorités d'éviter un conflit entre des communautés qui vivent pourtant en symbiose depuis plusieurs années. À Goma, Bernardine Diambou.
Le cas le plus récent en date est celui qui a été perpétré dans la nuit de dimanche dernier à Muhemba, en localité Bouloua. Les hommes armés non autrement identifiés ont décapité par machette 5 vaches. Le même forfait a été commis non loin d'Ntete, dans la localité Muhanga, dans le parterrage de Luendo Balingene. Là-bas, 3 vaches ont été volées la même nuit par les hommes armés qui ont fait incursion dans cette ferme. Le président de la société civile de Boabo condamne ces actes inciviques et demande l'implication des autorités compétentes. Héritier Bouchomeke.
Je dénonce et je condamne avec la dernière énergie les actes d'incivisme commis par des bandits armés non extrêmement identifiés dans le groupement Boabo. Cela est dû à un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs qui risque d'être un conflit tribal entre Hunde et Hutu. Nous demandons aux autorités compétentes de mettre toutes les batteries en marche pour dénicher les malfrats et les punir et protéger la population et leurs biens.
Signalons que ce même acte a aussi été observé dans la localité Kaniro-Machaki. La société civile demande à la population de collaborer avec les services de sécurité afin de trouver une solution quant à ces. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Trouble mardi dernier dans la cité de Boya, dans le territoire de Miabi. Nous sommes là au Kasaï oriental. Bilan, 3 personnes grièvement blessées, plusieurs maisons incendiées et des boutiques pillées systématiquement à la base, selon des sources locales. Un conflit de pouvoir coutumier. C'est ce que nous explique à Mbujimaï, Esther Ndalafina.
Les sources proches du gouvernement provincial affirment que tout a commencé après le Conseil provincial de sécurité extraordinaire élargi au chef de groupement en exercice de Bena Tshimungu et aux prétendants au pouvoir. Les deux protagonistes étaient invités par l'autorité provinciale pour recevoir les instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, reconnaissant le chef de groupement en exercice comme étant chef légitime. Il a été aussi question de les autoriser à retourner dans leur milieu respectif après 4 mois d'absence suite suite au conflit avec un message de paix pour permettre le bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. La même source affirme que quelques heures après cette rencontre, les sympathisants du prétendant au pouvoir se sont attaqués aux maisons des habitants de cette cité. Les maisons incendiées ne sont pas encore dénombrées. Plusieurs boutiques et kiosques ont été pillés. Un véhicule de la société Sassim a essuyé les pierres et plusieurs biens ont été détruits. Les barricades ont été érigées pour empêcher le mouvement de la population, mais sans succès. Une vidéo des actes posés sur place circule déjà sur les réseaux sociaux. Difficile d'avoir le bilan, étant donné que les tentatives pour joindre les autorités provinciales depuis hier soir à ce mercredi se sont avérées vaines. Quelques habitants qui sont restés dans la cité signalent le déploiement des éléments de la police depuis la nuit dernière pour rétablir l'ordre. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Politique à présent, la CENI antenne de l'Ituri sollicite l'appui des leaders communautaires pour sensibiliser les groupes armés afin qu'ils facilitent le bon déroulement de l'enrôlement des électeurs. Bien plus, cette institution d'appui à la démocratie fait appel à la MONUSCO pour obtenir l'adhésion des notables des différentes communautés locales pour la réussite de cette opération qui démarre le 16 février. Hier, l'association culturelle Lori, qui regroupe en son sein le peuple Lendu, a entamé d'ores et déjà ses rencontres de plaidoyer. Pour en parler, retrouvons à Bounia Jean-Claude Lokidile.
Selon la MONUSCO, cette démarche fait suite à l'escalade de violence perpétrée ces derniers jours par des groupes armés, principalement dans le territoire de Djougou, une tension qui, selon la CENI, risque de faire échouer cette opération et par conséquent réduit le nombre de personnes à enrôler dans des zones où persiste encore l'insécurité. Léonie Mungem est la chef de la section des affaires politiques de la MONUSCO à Bounia.
La CENI nous a approchés compte tenu de l'escalade de la violence dans la province pour faciliter leur rencontre avec les leaders communautaires et aussi les leaders des groupes armés, justement pour pouvoir faire les procédures d'enrôlement en toute sécurité, parce que les agents de la CENI doivent se sentir en sécurité pour pouvoir faire leur boulot.
Certains acteurs politiques ainsi que la notabilité Lendu ont pris part à cette première campagne de sensibilisation qui se poursuivra avec d'autres communautés. Joseph Tchoura, l'un des participants, exhorte les leaders des groupes armés à laisser libre passage aux personnes qui voudront se rendre au centre d'inscription.
Je parle à Bassa et à tous ces membres des factions des CODECO IR2PC. Ce même message à mes frères qui sont dans MAPI. Et si parmi eux, il y a aussi ceux-là qui veulent être députés ou leaders quelque part, qu'ils s'enrôlent.
La CENI, qui dit attendre enrôler plus de 2700 électeurs, rappelle que du nombre d'enrôlés dépendra aussi le nombre de sièges pour l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Capi.
Autre nouvelle sur Radio Capi, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa regrette le non-respect des engagements par le gouvernement congolais. La Poukine plaide pour le réajustement des salaires de ses membres à partir de ce mois de février. Dans une mise au point qui a été faite hier ici à Kinshasa, le président de la Poukine redoute une nouvelle grève si le gouvernement congolais n'honore pas ses engagements pris à Bibwa, ce qui pourrait bloquer ou plonger l'Université de Kinshasa dans une année blanche. Le professeur David Loubo le dit à Michel Kefinangoy.
Le mois de janvier vient de se passer, la paye se poursuit, mais il n'y a aucune amélioration comme décidé aux accords de Bibwa. De qui se moque-t-on? Dans quelques jours, nous allons évaluer et ceux qui bloquent tireront toutes les conséquences. Parce que je ne vois pas par quel mécanisme on peut signer les documents qu'on ne respecte pas. Alors, si on savait qu'on n'allait pas respecter, pourquoi 5 membres du gouvernement peuvent apposer leur signature sur des papiers dont ils considèrent être sans valeur? Rien n'a été fait, ni prime de recherche, ni mécanisation des nouvelles unités, il faut les appeler ainsi, ni encore moins les salaires de base. Je suis convaincu qu'il y a certains membres du gouvernement qui veulent perturber l'année académique, tout en sachant que c'est une année électorale.
Notez que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi a saisi vendredi dernier le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge afin de solliciter son implication personnelle pour obtenir le paiement complémentaire pour le mois de février du personnel de son secteur pour un montant mensuel de plus de 80 milliards de francs congolais. À Cape Town, en Afrique du Sud, un petit déjeuner thématique sur la RDC a été organisé ce mercredi matin par le ministère des Mines. Il était question à l'occasion d'échanger et de rassurer les miniers et quelques institutions bancaires établies en RDC sur les efforts consentis par le gouvernement congolais afin de sécuriser leurs investissements en RDC. On prit part aux échanges les ministres des Finances, celui de l'Industrie, de Moyennes et Petites Entreprises, les gouverneurs du Lualaba, du Olomami et du Haut-Katanga. C'était en présence et en marge de la conférence minière internationale Indaba. Des précisions sur cette rencontre avec la ministre des Mines de la RDC, Madame Antoinette Nsamba Kalambai, est au micro de Sintabashi Zinabizana, notre envoyé spécial à Cape Town.
La population congolaise voudrait que désormais les minerais du Congo puissent profiter au fils de la République démocratique du Congo, que les bruits de bottes puissent se taire à l'est du Congo et que les investisseurs qui veulent venir investir au Congo viennent en partenaire accompagner la République démocratique du Congo dans l'exploration, dans l'exploitation, dans la transformation et la commercialisation des minerais en République démocratique du Congo.
Est-ce que vous avez trouvé que les investisseurs étaient réceptifs?
Oui, ils étaient réceptifs parce que déjà le petit déjeuner que nous avons organisé ce matin, vous avez vu, hein, la salle était archi-comble. Nous avons été approchés par plusieurs potentiels investisseurs. Nous avons eu des promesses, des investissements à venir en République démocratique du Congo. Et nous pensons que demain, le Congo sera submergé par divers investissements, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Il s'est fait que la République démocratique du Congo, dans son sous-sol, regorge tous les minerais de la transition énergétique.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la ville du futur imaginée par le président Macky Sall commence déjà à prendre forme. Mais ce projet titanesque nécessite une main-d'œuvre énorme et qui attire des migrants de toute l'Afrique de l'Ouest. Or, ces travailleurs dénoncent déjà des conditions de travail extrêmement difficiles, des conditions médiocres, voire dangereuses, sur les différents sites de construction du projet. Le bilan dressé par les officiels ce mercredi après les séismes qui ont frappé lundi dernier la Turquie et la Syrie voisine fait état de plus de 11 200 morts. Seulement voilà, le nombre des victimes pourrait augmenter dans les prochaines heures, ont prévenu les secouristes qui se trouvent déjà débordés par les effets néfastes de cette calamité naturelle.
L'invité.
Notre invité, c'est l'inspecteur provincial des affaires sociales de la Tchoupo, Théophile Bartholomé, affirme que 6 de 7 enfants hébergés à l'orphelinat Faïda Yawatoto, disparus depuis le mois de novembre dernier, ont été retrouvés à Ariwara, sur le point d'être acheminés en Ouganda. Il s'entretient avec Jacques Mkonkolé.
Théophile Bartholomé, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Dans quelles circonstances et depuis quand ces enfants ne sont plus trouvables dans leur orphelinat?
Merci, messieurs les journalistes. J'aimerais d'abord vous signifier que pour moi, je ne peux pas accepter que c'était un orphelin. Ces enfants étaient pris en otage. Puisque les conditions où ils se trouvaient dans cet endroit, ce n'est pas même un orphelinat.
Dans quelles conditions vivaient-ils dans cette maison?
Ils vivaient attassés dans une chambrette où il passait la nuit, même pas salut, puisque j'étais là après avoir mené les enquêtes. Et c'est là aujourd'hui, ça fait 2 ans.
Et pourtant, cet orphelinat, dénommé Faïda Yawatoto, dispose d'un arrêté de fonctionnement provisoire délivré par les gouverneurs des provinces depuis septembre 2020.
Effectivement, c'est grâce à mes enquêtes que nous venons tous de voir cet arrêté. Cette ordonnance est de son Excellence Monsieur le Gouverneur sortant. Mais les affaires sociales, la division provinciale des affaires sociales, qui a octroyé un certificat d'enregistrement, ne pouvait pas le faire.
Pourquoi ne pouvait pas le faire?
Puisque les conditions d'octroyer un tel document, il faut faire d'abord des descentes sur terrain. Ils ne sont pas allés sur terrain. Et moi, les services attitrés qui devraient descendre sur terrain, je ne connaissais pas, je n'étais pas même informé ni copié.
Mais nous constatons qu'il détient également un PV de viabilité.
Et ce n'est pas un procès verbal de constat de viabilité des services attitrés des affaires sociales. Puisque ici, nous sommes aux affaires sociales. C'est le service de la division provinciale de la justice. Je ne vais pas entrer dans la division provinciale de la justice, mais moi, je parle du secteur à qui je contrôle, qui est la division des affaires sociales.
Vous êtes inspecteur. Pourquoi avoir laissé alors cette orphelinat fonctionner sans qu'il ne puisse bénéficier de toutes les conditions de viabilité nécessaires que vous dénoncez ici?
Oui, je vais commencer d'abord à répondre à la dernière. Les enfants sont portés disparus. Vous savez qui a donner l'information. C'est l'inspection, puisque nous sommes œil et oreille du ministère et même de l'autorité qu'on nous a mis à sa disposition, madame le gouverneur des provinces. Je vais vous dire que c'est nous qui avons fait l'information, puisque je suis descendu sur place, j'ai trouvé que les enfants étaient pris dans cet orphelinat. Et selon les informations, on les a appréhendés à Aruwara, un village ou cité, moi je ne suis pas encore là, à côté de l'Ouganda, on voulait traverser avec ses enfants.
Et comment sont-ils arrivés là-bas?
Ils sont arrivés là-bas, mais c'est à moitié par le truchement des assistants sociaux qui ne sont pas même les agents de la division des affaires sociales. Les gens de la division ont pris un monsieur qui n'est pas aussi agent des affaires sociales. On l'a associé avec un monsieur à moitié et ils ont fait disparaître ses enfants. Et maintenant, ces enfants sont maintenant à Aru et nous sommes en train de chercher comment les récupérer.
Au départ, on a parlé de 7 enfants, mais sur la photo, nous voyons 6 enfants. Où serait passé le 7e enfant?
Oui, le 7e enfant, l'enfant est vendu. Et parmi les 7, il y a l'enfant, je vous donne même les noms, c'est mademoiselle la fille Vicky, qui n'est pas dans cette photo, qui est vendue.
Peut-on donc dire aujourd'hui qu'il existerait à Kisangani un réseau de trafic d'enfants?
Oui, un réseau bien sûr.
Alors, comment mettre fin à cette situation?
Bon, je n'anticipe pas. Je sais qu'il y a des correspondances des autorités. Je vous ai montré la correspondance de Madame la gouverneure et son Excellence. Et les autorités politico-administratives et même de la justice sont derrière les dossiers pour faire les enquêtes.
Alors, est-ce que les démarches sont en cours pour faire revenir les enfants qui se trouvent présentement à Aru, les faire revenir à Kisangani?
Je sais que les démarches sont en cours, puisque les autorités sont suffisamment informées.
Quel message pouvez-vous adresser aux parents?
Le message que les parents puissent bien garder leurs enfants, qu'ils veillent à la sortie de leurs enfants, puisqu'il y a déjà un réseau de trafic pour enfants qui se joue, qui a vu le jour ici à Kisangani, dans la province de la Tchouk.
Théophile Batholomé, inspecteur provincial des affaires sociales, province de la Tchopo, merci.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
C'était donc l'invité de Radio Kapi, l'inspecteur provincial des affaires sociales de la Tchopo, Théophile Batholomé, était interviewé à Kisangani par Jacques Mkongole. Et c'est la fin de cette édition en information sur Radio Kapi. Merci d'avoir écouté. Je remercie sincèrement Pélé Kibé Lamondo qui m'a accompagné.